des philosophes publics.
Alors bleu, c'est quoi ? Religion.
Là, c'est on a retourné le problème
faire
en fait.
À l'extérieur de la classe, ce qu'on fait à l'intérieur de la classe, c'est-à-dire aider à penser et penser avec les autres.
Bon, alors non, on a le droit, de retourner.
C'est sûr.
Rouge, société.
Poser des questions, mais c'est peut-être de créer du désir.
Parce que les questions, on se les pose ensemble, on se les pose mieux.
C'est compliqué aujourd'hui de trouver la perspective commune.
Le collectif Les Philosophes Publics a pris naissance au sein d'un groupe d'amis, enseignants de philosophie, attentifs à la vie commune.
Il est né d'un sentiment, sans aucun doute partagé, d'être confronté à des événements révélant une crise grave de la société.
Crise des représentations,
des institutions
et des rapports au monde. Ce collectif a décidé d'aller partout où le dialogue est possible, d'écouter tous ceux qui ont à dire et à inventer,
de discuter et concevoir, de porter voix et témoigner de tout ce qui se dit et fait
pour une société plus joyeuse,
plus éclairée,
plus solidaire.
Philosophe public.
Bonjour, aujourd'hui les philosophes publics sont réunis avec Monique.
Bonjour.
Johanna.
Bonjour.
Ronald.
Bonjour.
Et moi-même, Marc. Et nous allons vous proposer aujourd'hui la première d'une petite série de deux émissions autour d'un texte de Hannah Arendt qui a été rédigé en 1967, qui s'appelle Vérité et politique et qui est publié dans un ouvrage qui s'appelle La crise de la culture. Alors nous avons choisi ce texte pour plusieurs raisons que nous exposerons aujourd'hui et puis dans la prochaine émission. Et notamment, nous l'avons choisi parce qu'en tant que collectif, les philosophes publics aspirent à mettre un petit peu de philosophie dans le débat public. C'est pour ça que nous sommes nés au départ. Et donc, nous interrogeons souvent justement sur la place que peut avoir l'exigence de vérité, l'exigence de recherche, l'exigence de philosophie aussi, ce qu'elle peut apporter par rapport à un contexte politique. Donc, l'émission d'aujourd'hui va plutôt être consacrée à la question du mensonge, donc la vérité opposée au mensonge en politique. Quelle est son existence, quel problème il pose. Et puis, donc, dans 15 jours, nous interrogerons plutôt sur la question de la vérité par rapport à la question de l'erreur, de l'illusion, et donc la question de la vérité philosophique ou morale qui pourrait irriguer l'action politique. Voilà. Donc, peut-être que, Johanna, tu pourrais nous lire, pour lancer le commentaire, lancer la discussion, un extrait de ce texte.
Oui, très bien. La vérité de fait, au contraire, est toujours relative à plusieurs. Elle concerne des événements et des circonstances dans lesquels beaucoup sont engagés. Elle est établie par des témoins et repose sur des témoignages. Elle existe seulement dans la mesure où on en parle, même si cela se passe en privé. Elle est politique par nature. Les faits et les opinions, bien que l'on doive les distinguer, ne s'opposent pas les uns aux autres, ils appartiennent au même domaine. Les faits sont la matière des opinions, et les opinions inspirées, par différents intérêts et différentes passions, peuvent différer largement et demeurer légitimes aussi longtemps qu'elles respectent la vérité de fait. La liberté d'opinion est une farce si l'information sur les faits n'est pas garantie et si ce ne sont pas les faits eux-mêmes qui font l'objet du débat. En d'autres termes, la vérité de fait fournit des informations à la pensée politique, tout comme la vérité rationnelle fournit les siennes à la spéculation philosophique.
Voilà, un texte qui est dense, qui dit des choses de manière concise, mais déjà le fait qu'elle qualifie la vérité de vérité de fait attire notre attention, et je pense qu'il serait préférable, dans un premier temps, de voir de quoi il est question quand il est question de vérité de fait. Alors ici, dans ce texte, on voit bien qu'il y a une opposition qui se met en place et qui oppose la vérité de fait à une vérité rationnelle. On pourrait appeler cette vérité une vérité de raison, pour faire écho à la structure de la dénomination de la vérité de fait. Et la manière dont Hannah Arendt nous propose de comprendre l'une par opposition à l'autre renvoie dans la vérité de fait à ce qu'elle appelle en général la contingence. C'est-à-dire, pour être simple et rapide, l'idée que un fait pourrait ne pas avoir eu lieu. La vérité qui consiste à énoncer son occurrence, le fait qu'il ait eu lieu, peut supporter la contradiction. On pourrait dire ceci n'a pas eu lieu, ou ceci a eu lieu, et cette vérité de fait n'a d'autre justification que le fait d'avoir eu lieu. Et cette fragilité, finalement, de la vérité de fait, l'assimile d'une manière ou d'une autre à l'opinion et lui donne un statut particulier qui, finalement, est à la fois sa fragilité et sa richesse, puisque, on le voit dans le texte, c'est l'aliment naturel de la politique. Monique, est-ce que tu pourrais peut-être aller plus loin de ce que j'ai dit sur la vérité de fait ?
Peut-être pas aller plus loin, mais donner un exemple ou deux concernant cette vérité de fait. Par exemple, vérité de fait, nous sommes quatre autour de cette table, nous sommes placés devant des micros, nous sommes, si je ne me trompe pas, jeudi après-midi. Voilà, il s'agit là d'un ensemble de faits. Alors, d'autres que nous quatre pourraient témoigner de notre présence. Par exemple, la personne qui traite du son, qui s'occupe du son, l'ingénieur du son qui est derrière la vitre et qui nous regarde. Mais si nous n'étions pas là pour en témoigner, eh bien cette vérité ou cet ensemble de vérités de fait pourrait peut-être aussi disparaître du monde. C'est-à-dire que si nous n'en parlions pas, si en sortant de cette salle nous ne racontions pas, s'il n'y avait pas d'enregistrement radio ou si on pouvait faire disparaître ces enregistrements radio, eh bien ces vérités-là n'existeraient plus. Et donc il y a une fragilité de la vérité de fait qui peut disparaître du monde dès lors qu'on a peu de témoignages de témoins pour en attester.
Et c'est ça qu'elle veut dire quand elle dit qu'elle est politique par nature. Ça veut dire qu'elle implique la pluralité des personnes pour exister. En quelque sorte, s'il n'y avait pas cette structure plurielle, intersubjective, ce partage du témoignage, l'idée qu'on puisse chacun valider l'affirmation qu'une chose a eu lieu pour le compte de quelqu'un d'autre, cette vérité ne pourrait pas exister.
Alors doublement, parce que à la fois si je suis la seule à vivre quelque chose, je peux toujours m'interroger, si personne ne partage au bout du compte mon expérience, je peux toujours m'interroger sur la question de savoir s'il y a délire ou pas, donc d'une part, et puis d'autre part, c'est dans le partage effectivement du témoignage eh bien, que nous construisons un monde qui est un monde commun. Et donc ça, politique ici, ça signifie bien commun, partage d'un monde commun ou encore public. Ce sont les deux mots utilisés par Arendt pour envoyer donc à ce monde que nous construisons en tissant finalement nos témoignages de manière à établir ce qui est.
Et de ce point de vue-là, est-ce qu'on peut dire aussi que l'articulation que le texte nous propose entre ces vérités et l'opinion, finalement, donne un sens un petit peu différent à l'opinion ?
Oui, parce qu'il me semble que la vérité, elle a ce paradoxe à la fois d'être fragile, hein, puisqu'on l'a dit, elle est contingente, donc elle peut toujours être falsifiée, alors que Arendt dit une vérité de raison qui aurait été perdue pourrait toujours être retrouvée, puisqu'elle est produite par la raison elle-même. Par exemple, un théorème mathématique qui serait perdu, on pourrait toujours se dire que l'esprit humain pourrait le reproduire, alors que le fait, comme on l'a dit tout à l'heure, si les traces du fait, si les témoignages du fait sont perdus, il est perdu pour toujours. Et à la fois... Alors, ce qui distingue aussi la vérité de l'opinion, c'est que la vérité, elle porte essentiellement sur ce qui s'est passé, sur le passé ou éventuellement sur le présent, hein, puisqu'elle porte sur des faits. Donc, à cet égard, Arendt dit, elle est politique et à la fois, elle n'est pas politique dans la mesure où elle est despotique, puisqu'elle s'impose. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle fait peur au pouvoir politique aussi, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas la changer, ou du moins, ils essaient bien sûr de la changer, mais les faits sont têtus et les faits résistent à cette volonté d'agir sur eux. Donc, elle n'est pas politique dans le sens où il ne peut pas y avoir de discussion. Voilà, c'est de fait, c'est pas la Belgique qui a envahi l'Allemagne par exemple pour la Première Guerre mondiale, c'est l'exemple qu'elle prend, et ça on n'y peut rien. Donc elle n'est pas discutable. Or elle dit la discussion c'est l'essence même de la vie politique. Et donc les opinions en fait portent davantage sur ce que nous devrions faire, sur le monde que nous devrions construire. Et donc la discussion d'opinion est ouverte vers l'avenir, alors que la discussion sur les faits, qui n'est pas vraiment une discussion en fait, qui est plutôt une reconnaissance, même si on pourrait nuancer ça, on y reviendra sans doute, la reconnaissance des faits est despotique. Donc elle n'est pas politique en ce sens-là.
Oui, à la fois le fait est politique parce que, comme l'a dit Monique, il permet de construire un monde commun, mais aussi pour que le fait soit reconnu, il faut aussi qu'il y ait monde commun, puisque à un moment elle dit que finalement, c'est aussi la confiance qu'on attribue à autrui, à sa parole, qui fait que son témoignage va avoir une certaine valeur, puisque elle dit certes, il faut que le fait soit reconnu, qu'il fasse quelque sorte, qu'il soit reconnu par plusieurs personnes appartenant à la sphère politique, mais en même temps, si effectivement ce fait-là est constaté par une majorité, eh bien, cette majorité-là devient un petit peu suspecte
aussi. C'est-à-dire que finalement, si cette majorité-là a le pouvoir, si on considère qu'elle a le pouvoir, alors ce qu'elle dit peut être douteux. Parce que, justement, ça fait intervenir des intérêts politiques qui peuvent aller contre une autre partie du monde public.
Oui, alors juste pour prolonger cette réflexion-là, ce qui peut faire aussi chez Arendt que la vérité, y compris de fait, est politique, c'est qu'elle écrit que l'acte même d'isoler un fait de ce qu'elle appelle le chaos des événements, du nombre incalculable d'événements humains qui peuvent se produire dans le présent et même dans le passé, que cet acte-là est déjà un acte interprétatif. Donc ça peut être aussi intéressant de se demander finalement selon quelle perspective choisissons-nous les faits que nous mettons en avant. Et ça, là il y a déjà peut-être quelque chose qui est politique, justement. C'est-à-dire que les faits, quand elle dit les faits sont la matière de la réflexion politique, c'est justement que le fait même d'isoler tel fait, de le mettre en avant, de l'interpréter. Donc à la fois, il y a quelque chose qui résiste, puisque nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons de la matière factuelle. Ça pose un vrai problème par rapport à une question qui est au centre de son article, c'est-à-dire la manipulation, le mensonge de masse, le mensonge organisé, le mensonge politique. Il ne faut pas oublier que ce texte est quand même écrit avec en perspective l'expérience totalitaire, qui justement vise à reconstruire une histoire, reconstruire un réel complètement fictif. Donc la matière factuelle résiste et en même temps nous avons la possibilité d'isoler des faits, de leur donner un certain sens par rapport à une perspective qui, elle, pour le coup, peut donner lieu à un débat politique, c'est-à-dire un débat justement sur les opinions et sur non pas simplement ce qui s'est passé mais ce qu'il faudrait que nous fassions.
Ouais, c'est une sorte de mensonge à ce moment-là, mais par omission. C'est-à-dire, pour débattre d'une question, il faudrait avoir accès effectivement à un ensemble de faits, mais à la totalité des faits dont nous devrions avoir connaissance pour que le débat soit éclairé. Et c'est vrai qu'à choisir certains faits ou à occulter certains faits au profit d'autres, eh bien, on biaise la possibilité du débat et donc d'une prise de position qui soit véritablement éclairée.
Oui, oui. Je pense que si on met en perspective le texte à l'aide de fiction ou de dystopie, par exemple 1984 d'Orwell, il peut être aussi compris de manière assez riche. Par exemple, on voit dans 1984 que le caractère persistant des faits, l'objectivité des événements sur laquelle Arendt insiste pour dire que finalement c'est ça qui alimente le débat, on ne peut pas mettre en question indéfiniment des faits. Dans la dystopie, dans 1984, cet élément d'objectivité est complètement supprimé. Et on voit que c'est cette suppression, cette capacité du pouvoir à effacer des faits, qui fait du pouvoir qui est mis en scène dans ce roman, un pouvoir ultra-totalitaire. Et que donc, finalement, il y a presque une proportion à établir, que ce texte établit assez, assez bien, entre le respect des vérités de fait et le maintien d'un véritable débat politique. Même si ce débat a tout loisir de discuter de la signification de ces faits.
Donc là, on introduit un deuxième sens quand même du mot politique, c'est-à-dire 1984, c'est effectivement une dystopie qui est une dystopie politique, mais c'est pas la politique au sens où nous en avons parlé auparavant, c'est-à-dire la politique comme souci du monde commun, la politique comme souci d'un monde donc qui est un monde partagé, où tous pourraient également d'une certaine manière prendre la parole et exister sous le regard d'autrui qui le reconnaissent, mais ça serait plutôt la politique au sens de conquête du pouvoir, exercice de la domination, c'est-à-dire la politique en tant qu'elle met en jeu immédiatement des rapports de force ou encore des rapports de domination. Et là, la politique en tant que c'est la politique d'un parti qui conquiert le pouvoir et qui veut exercer ce pouvoir, a intérêt effectivement au mensonge. C'est-à-dire que le mensonge intervient en politique ici comme destruction donc des faits. Par exemple, Staline donc faisant disparaître Trotsky des livres d'histoire et les témoins. Attestant de la place qu'il a pris au moment de la révolution russe. Donc la politique là a intérêt effectivement à faire disparaître et à s'arranger avec les vérités de fait pour manipuler l'histoire, c'est-à-dire le passé mais aussi le présent en tant qu'il engage l'avenir.
Et selon Arendt, cette réécriture constante de l'histoire et cette manipulation des faits, non seulement rend le débat public impossible, puisque comme on le disait, on ne peut pas savoir comment il faudrait transformer le monde si on ne sait pas ce qu'est le monde. Donc le débat politique porte sur le réel et sa transformation, mais ça porte même atteinte finalement à notre raison elle-même, puisque elle écrit notamment... On a fréquemment remarqué que le résultat long terme le plus sûr du lavage de cerveau est un genre particulier de cynisme, un refus absolu de croire en la vérité d'aucune chose, si bien établie que puisse être cette vérité. En d'autres termes, le résultat d'une substitution cohérente et totale du mensonge à la vérité de fait n'est pas que les mensonges seront maintenant acceptés comme vérité, ni que la vérité sera diffamée comme mensonge, mais que le sens par lequel nous nous orientons dans le monde réel et la catégorie la vérité relativement à la fausseté se trouve détruit. Voilà, donc en fait, l'idée, c'est que nous devenons incapables de distinguer le vrai du faux. Et peut-être qu'à cet égard, ce que dit aussi Arendt sur les méthodes de la publicité, puisqu'elle dit finalement les pouvoirs politiques sont beaucoup inspirés des méthodes du marketing, de la publicité, etc. On peut s'interroger aussi sur la place de la vérité dans notre monde actuel, puisque bien évidemment, la vérité est mise en crise aujourd'hui dans notre monde actuel par des moyens aussi que Hannah Arendt n'avait peut-être même pas imaginé.
Bon, c'est quand même le moment de faire ressurgir l'opposition qui structure le texte, hein, parce qu'on voit que dans ce domaine, quels que soient les degrés de relation que nous avons avec les vérités de fait, qu'elles soient détruites ou qu'elles soient maintenues afin qu'on en discute, elles restent contingentes. Et finalement, on voit bien que le domaine politique se distingue d'autres domaines, par exemple du domaine scientifique, dans lequel on peut apporter des preuves ou des démonstrations que ce que l'on affirme est vrai. Et par conséquent, on peut quand même prendre la mesure de la nature des débats et du consensus qui est recherché dans le domaine politique, là où il n'y a pas de démonstration possible. Et là où finalement toutes les opinions, je ne dirais pas qu'elles se valent, mais elles ont au moins une sorte d'importance relative les unes aux autres, parce qu'il n'y a pas d'horizon de démonstration possible, il n'y a pas de vérité ultime qui soit de nature à donner tort à certains et raison à d'autres.
Tout à fait, mais par contre, au-delà donc du débat d'opinion et donc du débat sur les valeurs et de ce qu'il faudrait faire, Hannah Arendt dit clairement que dire la vérité d'un point de vue épistémologique, par exemple, si on prend l'historien, par exemple, dire la vérité n'est un acte politique que dans un contexte de mensonge organisé, c'est-à-dire, comme tu le dis, le fait même d'établir scientifiquement une vérité, et là on peut aussi penser à la question de l'indépendance des chercheurs, bien évidemment, qui est un enjeu de démocratie, hein, puisque forcément, plus les chercheurs et plus les historiens, les sociologues, les économistes sont indépendants du pouvoir politique, et plus on peut imaginer qu'ils seront proches d'une version réelle des faits. Donc le fait même de dire la vérité peut être politique, mais uniquement dans un contexte où la vérité est falsifiée. Mais bien évidemment, et ça sera l'objet plutôt de la prochaine émission d'ailleurs, on pourrait aussi se demander dans quelle mesure il peut y avoir une vérité en politique, non pas une vérité donc factuelle, une vérité constatative, mais plutôt une vérité sur ce qu'il faudrait faire, une vérité sur les solutions apportées aux problèmes qu'on peut constater dans le réel, en sachant que l'identification même des problèmes pose déjà justement question, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, le fait d'isoler des faits et de considérer qu'ils constituent un problème, là c'est déjà un acte interprétatif.
Donc on ne peut pas démontrer qu'on a raison en politique.
C'est ce que nous verrons à la prochaine émission.
Bon, quelques annonces peut-être avant de se quitter tout à fait concernant les philosophes publics, quelques dates. Vous pouvez nous retrouver sur la Canebière tous les derniers dimanches du mois. Le 16 novembre, il y a un débat sur le complotisme au centre social Mer et Colline. Et le 12 décembre, un débat donc aux Argonautes sur le thème de la démocratie.
Merci, au revoir.
Merci.
Au revoir.
À la prochaine émission.
Au revoir.
Les philosophes publics.
Là c'est, on a retourné le problème, en fait, en effet.
Là, c'est-à-dire aider à penser et penser avec les autres.
Mais c'est quoi ce faut-il-là? Est-ce que...
C'est circuler une parole.
C'est ça.
C'est sûr.
Vous posez des questions, mais c'est peut-être de créer du désir.
Parce que les questions, on se les pose ensemble, on se les pose au mieux.
C'est compliqué aujourd'hui de trouver la perspective commune.
Le collectif Les Philosophes Publics a pris naissance au sein d'un groupe d'amis, enseignants de philosophie, attentifs à la vie commune.
Ce collectif a décidé d'aller partout
où le dialogue est possible, d'écouter tous ceux qui ont à dire et à inventer,
de discuter et concevoir, de porter voix et témoigner de tout ce qui se dit et fait
pour une société plus joyeuse,
plus éclairée,
plus solidaire.
Philosophes publics.
Vous pouvez nous retrouver sur Facebook
et sur le site de Radio Grenouille.